Bravo, ouais, merci les musiciens, bravo. Ça va bien ce matin?
Oui.
C'est beau, il fait chaud, la récolte comme une chanson. Bonjour les amis qui nous rejoignent sur Révélation Bible. J'espère que vous allez bien aussi. Et ce matin, on va faire une lecture dans les psaumes, dans le psaume 37, versets 23 à 24. 37, 23, 24. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Amen. Le Seigneur, notre Sauveur, nous aidera toujours dans notre pèlerinage terrestre, toujours, par toutes sortes de moyens. Jésus, je te prie pour que tu montres que ce que je dis à mes frères et sœurs, c'est la vérité, parce que c'est la Bible qui le dit, et que je crois que c'est la Bible est une lettre que tu nous adresses pour que nous puissions savoir qui tu es, qui nous sommes. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Alors depuis que j'ai quitté ma Suisse natale, il m'est arrivé de me sentir un peu perdu et même laissé pour compte, alors que j'étais venu pour travailler pour le Seigneur. En fait, j'étais venu pour faire des études. On m'avait, comment dire en Suisse, meulé. C'est-à-dire, on avait insisté lourdement pour que je fasse des études bibliques. Et il m'est arrivé souvent de me demander si j'étais à la bonne place, avec les bonnes personnes. Je me revois toujours dans cette école. Où... C'était triste. C'était épouvantable. C'est à l'école biblique que j'ai senti surtout cela. Cette espèce de désespérance. Il me semblait que j'avais perdu mon orientation. Je me demandais si j'étais bien, si c'était bien ça que Dieu voulait pour moi. Les pasteurs m'avaient dit, tout le monde m'avait dit, Michel, tu as reçu quelque chose de Dieu, mais il faut que tu ailles à l'école biblique pour apprendre. Alors on avait, je me rappelle, un professeur qui nous faisait un cours. Et puis tout de suite après, on avait un autre qui nous faisait exactement le même cours, mais mot pour mot. On voyait qu'ils avaient lu le même bouquin, puis qu'ils venaient nous balancer ça. Et ce bouquin, bon, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie chrétienne. Moi, j'étais là, assis, à écouter ces messieurs venir nous raconter des histoires. Que... Puis en plus, on payait pour être à l'école biblique. J'aurais mieux fait me payer les bouquins, hein, parce que quand on a un bouquin, on le garde, on l'a, et puis on peut le lire. J'aimais pas trop ça. Ce que je connaissais avant d'aller à l'école biblique, alors que j'étais dans ma Suisse natale, c'était ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu avec Raphaël. J'avais vu Raphaël prêcher, emmener des gens à Jésus, guérir les malades au nom du Seigneur. Je l'avais fait moi-même, et c'est ça que je voulais faire. Là, dans cette classe, cette salle de classe, il me semblait que plus le temps passait, plus je m'éloignais de ma destination. Ce que je voulais, c'était vivre. Et à un moment donné, j'ai décidé d'abandonner ce système. Alors j'ai fait 3 écoles bibliques parce que je me suis dit peut-être que je me suis trompé d'école biblique, je vais en faire une autre. Parce que des écoles bibliques, des écoles théologiques, il y en a quand même pas mal. Enfin, il y a eu une chose de bonne, c'est que dans une de ces écoles bibliques, j'ai rencontré ma femme, qui est là. Alors, je ne sais pas où vous en êtes actuellement, personnellement, mais sachez que le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de diriger vos pas et de vous relever si vous avez trébuché, c'est ce qu'on vient de lire. Souvenez-vous que Dieu prend plaisir à votre voie, à votre chemin, même si vous vous trompez de temps en temps. Et moi, là, je m'étais carrément trompé. Hein. Je me rappelle, dans cette école biblique, tous les dimanches, on allait dans une église différente, et puis tous les élèves rendaient leur témoignage, sauf moi. Alors un jour, il y a un des élèves, le frère Valente, je me souviens toujours. Je ne sais pas s'il vit toujours, le frère Valente. C'est un étudiant comme moi, il avait été trouvé lié directeur, il avait dit, si vous ne faites pas témoigner Michel Janton, moi je fiche le camp. Et il avait ouvert un attaché caisse à laquelle il avait des liasses pour payer tous ses 3 ans d'école biblique. Le dimanche d'après, il me faisait témoigner dans l'église. Et après, on me faisait aussi chanter dans les églises. Et j'étais devenu, n'est-ce pas, alors que j'étais laissé pour compte. Et vous savez pourquoi? Ben, je l'ai appris. Parce que je m'étais converti à l'église gitan. Il y avait une forme de racisme. Je suis déçu, voilà. Dans l'évangile de Matthieu 11-28, il est dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'avais besoin de repos, c'était pas un repos physique, parce que physiquement on foutait rien là-dedans, hein, à part écrire. Oui, l'après-midi on grattait dans la cave parce que on aidait à faire les restaurations. Donc moi j'étais avec Victor Escroignard. Salut Victor, il vit en Israël. Victor maintenant. Et on grattait par terre tous les après-midi. Et ce que vous devez faire, c'est exactement ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai crié à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et j'ai crié à Dieu. J'ai fait ça. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de ces cours bibliques monotones. Je peux en apprendre autant en lisant les bouquins qu'on achète dans n'importe quelle librairie chrétienne. Pourquoi est-ce que je dois rester coincé ici tous ces mois, toutes ces années en fait? J'avais une seule envie, c'était de conduire les gens à Jésus-Christ. J'étais jeune, j'étais plein de fougue. Et je m'en fichais complètement d'apprendre dans ces cours bibliques comment s'appelait la belle-sœur de Moïse. Mais alors je m'en foutais, mais royalement. À quoi? Puis ça me sert à quoi? Encore aujourd'hui, mais tiens, aujourd'hui j'ai oublié comment elle s'appelait la belle-sœur de Moïse. Hein?
La sœur.
Ça m'est égal, comment? Ça fait bon. Ou de savoir à quelle date a été écrit le livre de Jérémie. Vous prenez n'importe quelle bonne Bible d'étude et c'est écrit en préambule la datation approximative de la l'école biblique. Donc on apprend des tas de choses comme ça qui ne servent à rien du tout dans la vie du... Bon, il y en a que ça leur fait du bien, moi ça ne me faisait pas du bien. Je voulais servir Dieu, je m'étais laissé avoir à m'inscrire dans ces écoles bibliques et... Bon, maintenant je ne sais pas si vous, je ne sais pas où vous en êtes. Il se peut que vous soyez désorienté aussi, confus, dans un autre domaine, mais confiez cela à Dieu, dites-le-lui de tout votre cœur. Dites-le-lui. Il vous donnera le repos, il vous donnera la paix dont vous avez besoin, et il arrangera les choses pour que tout s'arrange. Moi, c'est ce qu'il a fait, j'ai laissé tomber tout ça, et puis... J'ai rencontré Bill William et j'ai travaillé 7 ans avec lui dans l'œuvre de Teen Challenge et puis j'ai été guidé tout le long de ma vie, mais au moins on gagnait des âmes. Quand on rencontrait un drogué, on lui disait pas « Tu sais comment elle s'appelle la belle-sœur Moïse ?» On s'en fichait complètement. Mais on savait comment faire, je savais comment faire pour emmener quelqu'un à Jésus. Avant-hier, je parlais encore avec mon ami Jean-René de la Patte d'Oise, et on l'appelait Joss à l'époque. C'était un mec, il se droguait comme c'est pas possible, il avait les cheveux jusqu'en bas du lot, et puis il est arrivé là, et je l'ai évangélisé, et il me disait, tu te rappelles comment j'ai reçu le Saint-Esprit? Je dis, oui, je me rappelle, c'était sur les quais de la Seine, sur un tas de sable, on avait été prier, il avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il s'en souvient, je m'en souviens aussi. Et puis, juste après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, on l'a plus revu. Alors, certains équipiers me disaient, ah, ton petit jeune là, hein, tu vois, on le voit plus. Puis quelques temps après, il y a eu une réunion à Paris, je crois que c'était avec David Wilkerson, je crois, à la mutualité. Et qui c'est qu'on voit arriver? Joss, avec une équipe, ils étaient au moins une quinzaine, il dit, voilà, ça c'est des gars que j'ai emmenés à Jésus. Voilà, et il marche avec Dieu. Et il marche toujours avec Dieu, il est toujours avec le Seigneur chez nous au téléphone, là, et... il s'occupe d'annoncer l'évangile et tout. Et c'est bien de se sentir utile, de faire quelque chose, pas simplement d'avoir de la connaissance. C'est bien d'avoir de la connaissance, ça ne veut pas dire que je crache sur la connaissance, depuis j'ai appris beaucoup, mais voilà, bon, j'étais déçu. Il se peut que vous soyez confus aussi. Alors criez à l'Éternel, il vous donnera le repos, la paix, la direction. Alors bon, le chemin n'est pas toujours clair, mais on peut faire confiance à Jésus, avoir la foi que notre voyage se terminera bien. Chaque fois qu'on fait un choix, il faut réfléchir et pour tout, et puis faire des choix dans la vie. Et puis, c'est pas toujours écrit ce que le choix qu'on doit faire. Par exemple, là, on a choisi d'installer deux pompes à chaleur chez nous. C'est pas écrit dans la Bible quelle marque on doit prendre. Mais on a fait ce qu'il fallait pour trouver les représentants. On a comparé les prix, on a passé des heures, c'est surtout Philippe qui s'est occupé de ça, et puis voilà, puis on a fait un choix, mais on remet notre sort entre les mains de l'Éternel, et il fait réussir ce que nous entreprenons. Mais il faut lui recommander notre sort, il faut lui en parler, il faut lui parler de tout, et il s'occupe de nous, parce que Jésus veut vous conduire, et il peut vous conduire en toute sécurité à l'endroit où vous devez être. Et il a tout intérêt à le faire. Vous et moi, nous n'avons qu'à regarder à Jésus, faire ce qu'il faisait, c'est ça le suivre, c'est faire ce qu'il faisait. Faire ce qu'il faisait il y a 2000 ans, on peut le faire aujourd'hui, on peut le faire même plus facilement parce qu'on a des voitures, on a Internet, on a d'autres moyens qui nous permettent de faire et de multiplier à vitesse grand V les choses que lui, il faisait en marchant sur les chemins poussiéreux d'Israël. Et c'est ça, marcher sur le chemin, c'est ça le suivre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est Jésus. Alors, on dit, oui, le chemin, c'est Jésus. Avançons comme il a avancé. Notre vie ne sera pas exempte de défis ni de sacrifices. La sienne a été remplie de défis, remplie de sacrifices. Il a été humilié et tout, mais il savait qu'il était là où il devait. Il disait ce qu'il devait dire et il ne se trompait pas. Il était conduit par le Père. La voie droite, c'est de croire à Jésus, mais c'est de croire Jésus surtout. Et si nous nous inspirons avec les Saintes Écritures et que nous les mettions en pratique de tout notre cœur, Jésus nous donnera le courage d'agir, de faire des choix, et on trouvera la joie au milieu de nos épreuves, ça c'est sûr. Si nous nous mettons en chemin, c'est-à-dire si nous nous mettons en lui, puisqu'il dit « je suis le chemin », on se met en lui, c'est-à-dire dans sa peau, il est dans notre peau, mais il a dit aussi « vous êtes en moi », hein, donc on se met en lui, on se met dans le chemin, dans la conformité à ce qui est écrit. C'est ça qui est important, dans la conformité de ce qui est écrit. Nous pouvons avoir confiance que nous pourrons accomplir ce que nous sommes venus accomplir sur cette terre. Vous savez, Jésus connaît le commencement et la fin. Je peux le dire autrement, je peux dire que, en fait, Jésus connaît la fin depuis le commencement. C'est un petit peu comme si vous avez vu un bon film, puis donc vous dites, je vais le regarder encore, il finira la même chose. Hein. Il connaît la fin avant le commencement. Et puis, il sait qu'on va avoir des difficultés. Il dit, si vous trébuchez, je vous relèverai, vous inquiétez pas. Il ne vous en veut pas, il vous en veut pas. Mais il faut que vous lui parliez, il faut que vous ayez une communion avec lui. Il est le chemin, mais il n'est pas que le chemin. Il est la vérité. Ses pas sur cette terre, sa façon de marcher, ses pas, il y a 2000 ans, ils ont laissé des marques. Ses pas ont laissé des marques sur le chemin. Et nous savons ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est un, là je vais dire un mot que les gens n'aiment pas, c'est sa doctrine. La doctrine. Alors, on va lire 2 Jean 1, 9, parce que les gens disent, oh, il y a une doctrine. T'es endoctriné avant. 2 Jean 1, 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Nous devons connaître la doctrine de Christ et demeurer dedans. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la doctrine de Christ. Il y a une doctrine de Christ et elle se trouve dans la Bible. Et pas forcément dans les écoles bibliques et pas forcément dans les églises. Moi, j'ai fait 3 écoles bibliques de 3 dénominations différentes. Ben, je vous l'ai, il y avait des choses très différentes. Et dans les églises, j'en ai visité pas mal. Parce qu'avec Teen Challenge, on était interconfessionnels. Et on allait dans toutes sortes d'églises. Et moi, comme j'aime bien bouquiner, j'achetais leurs bouquins, j'achetais leurs credos. Et puis je regardais. Et puis après, j'ai connu toutes sortes de gens de toutes sortes d'églises. Il y a certaines églises qui prêchent le baptême pour les enfants. Hein, faut baptiser les enfants. Ben, c'est pas la doctrine de Christ. Si vous demeurez pas dans la doctrine de Christ, vous n'avez pas Dieu. Ah! C'est terrible, hein? Certaines églises enseignent de prier les saints, les morts, la Vierge, Sainte Rita, Sainte Machin, tout ça. Ce n'est pas la doctrine de Christ, c'est écrit nulle part. Jamais Jésus a parlé de ça. Jamais les apôtres ont parlé de ça. Ça n'est pas la doctrine de Christ. Ceux qui n'ont pas la doctrine de Christ, l'apôtre Jean dit, vous n'avez pas Dieu. Vous imaginez, vous l'avez pas. Certaines églises enseignent de ne pas pratiquer 1 Corinthiens 15, 29. Je ne vous dirai pas ce que c'est 1 Corinthiens 15, 29. Vous n'avez qu'à vous acheter une Bible pour savoir. Eh ben, ils n'enseignent pas 1 Corinthiens 15, 29. Bon, ben, ils n'ont pas la doctrine de Christ. Certaines églises ne pratiquent pas Jean 13, 1, 17. Eh ben, ils n'ont pas la doctrine de Christ. Et n'ayant pas la doctrine de Christ, ils n'ont pas Dieu. C'est grave quand même. Comment savoir si vous êtes dans la doctrine de Christ? C'est quand même important parce qu'il dit... Si vous demeurez pas dans la doctrine de Christ, vous n'avez ni le Père ni le Fils, c'est-à-dire vous n'êtes pas sauvé, quoi. Eh bien, c'est en étudiant ce que Jésus et les apôtres ont dit. C'est comme ça que vous pouvez savoir si vous êtes dans la doctrine de Christ. C'est en étudiant ce qu'ils ont dit, eux. Pas l'interprétation de ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas besoin d'interpréter ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, c'est très clair. Quand ils parlaient, c'était pour être compris. Parce que sans cela, vous n'êtes pas dans le chemin. Jésus dit, vous n'avez pas Dieu. Enfin, c'est pas Jésus, c'est Jean, l'apôtre Jean, mais c'est pareil, c'est inspiré. Il ajoute, mais si vous demeurez dans la doctrine de Christ, vous avez le Père et le Fils avec vous. Vous voyez, c'est clair. C'est dans 2 Jean 1, 9, je le répète pour ceux qui voudraient aller voir si c'est vraiment vrai ce que je dis. La doctrine de Christ est le chemin que nous avons à suivre pour être secourus et être sauvés. Sinon, Dieu n'a aucun devoir envers nous. Hein. Si nous on fait pas attention à ce qu'il dit, qu'est-ce que... Nous avons à nous repentir, nous avons à être baptisés selon la doctrine de Christ, c'est-à-dire en tant qu'adulte et par immersion dans de l'eau, comme les apôtres, et puis vous avez à recevoir le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, comme les apôtres l'ont reçu. Lisez Actes chapitre 2, vous verrez comment ils l'ont reçu, vous devez le recevoir comme ils l'ont reçu. Et vous verrez dans toutes les autres écritures, dans les Actes des Apôtres et partout, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y avait un texte, alors c'est les apôtres qui sont en train de parler à des non-juifs, et puis ils traînent, ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire, parce que c'est la première fois qu'ils le font, qu'ils prêchent à des non-juifs. Et tout à coup, le Saint-Esprit est tombé sur les non-juifs qui étaient là, et ils se mirent à prophétiser, à parler en langue. Alors les apôtres se sont réunis, ils ont dit « Oh là là !» Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, il faut qu'on les baptise. Et donc, pour eux, c'était quand même un signe important, ce fameux parler en langue. Comme les apôtres l'ont reçu, il faut que vous le receviez comme les apôtres l'ont reçu. Ça, c'est la doctrine de Christ. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il parlera de nouvelles langues. Marc chapitre 16, dans les derniers versets. Et puis, nous avons à renouveler nos alliances avec Dieu en mangeant son corps et en buvant son sang. Hein? Sous les deux espèces. Pas une hostie, c'est une invention, c'est pas la doctrine de Christ, l'hostie. La doctrine de Christ, c'est le pain et le vin. Nous avons à faire de notre mieux pour persévérer dans la communion fraternelle, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, versets 42-45. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le pain, le vin, les prières et tout ça. Et ils vendaient ce qu'ils possédaient, ils mettaient au pied les apôtres partageaient et donnaient à chacun ce dont il avait besoin. Les apôtres ne gardaient pas tout pour eux, comme certains qui s'enrichissent sur le dos des gens. Hein. Comme la doctrine de Christ le dit, et non comme les églises le disent. Pour eux, la communion fraternelle, c'est de se réunir le dimanche, et puis de chanter « Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu ». Maintenant, il y a une nouvelle mode, c'est on se roule par terre pour la plus grande gloire de Dieu. C'est pas la doctrine de Christ. Les seules personnes qui se roulent par terre dans la Bible, c'est les possédés. C'est pas les chrétiens qui louent Dieu. Ça tient pas debout. Enfin, oui, c'est le cas de dire, ça tient pas debout. Et puis, en retour, eh bien, vous avez le pardon, l'espoir, la vie éternelle, tout ça, ça nous est promis. Est-ce que vous comprenez? C'est important de comprendre. Il ne suffit pas de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. On nous dit toujours, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oui, mais croire au Seigneur Jésus, c'est faire ce que le Seigneur Jésus en qui on croit a dit de faire. C'est suivre Jésus, c'est suivre sa doctrine. Suivre la doctrine de Christ. Si tu ne suis pas la doctrine de Christ, t'es maudit, t'as pas Dieu, t'as pas le Père, t'as pas le Fils, t'as rien. Tu te visionnes, tu te dis, mais, de toute façon, Dieu me jugera, il aura compassion. Non. Non. Désolé, mais non. C'est écrit clairement, tu dois avoir la doctrine de Christ. Si tu l'as entendu, si tu l'as lu, puis que tu la mets pas en pratique, c'est un cœur tordu. C'est que t'es, il y a quelque chose qui joue pas dans les boyaux de ta tête. ou ton cœur, je sais pas. Mais c'est pas normal que je dise oh, j'aime Jésus, mais je fais pas ça parce que c'est non, c'est plus, c'était pour autrefois. Voilà. C'est pourquoi, en cette fin des temps des nations, je dis bien, c'est la fin du temps des nations, nous avons à marcher résolument, avec constance, sur le chemin, c'est-à-dire en Christ, en ayant une espérance, l'espérance d'une pureté parfaite. Comment on peut en être sûr ? En connaissant les Écritures. Les Écritures nous relatent ce dont nous avons besoin pour pouvoir avoir cette espérance et cette foi parfaite. Il n'y a que l'Écriture. Si je vous dis quelque chose, puis que ce n'est pas dans l'Écriture, vous, non seulement vous rejetez ce que je dis, mais vous me rejetez. Il faut le faire. Dans 1 Jean, c'est dit... Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, dans cette doctrine, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Même pas salut, tu vois, même pas. C'est clair, hein. En ayant de l'amour pour Dieu, en ayant de l'amour pour les gens, en ayant de l'amour pour la création de Dieu aussi. Alors, si vous marchez résolument en faisant un festin de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la doctrine de Christ, et si vous persévérez jusqu'à la fin, vous aurez la vie éternelle. Ça aussi, c'est écrit qu'il faudra persévérer jusqu'à la fin. Vous persévérez. Alors bon... Je connais beaucoup de vrais chrétiens qui méditent dans leur cœur sur ce qu'ils doivent faire après être entrés dans le chemin en Christ. Ma question est, mais pourquoi est-ce que vous méditez sur ces choses? Pourquoi vous méditez? Pourquoi vous méditez, ça veut dire réfléchir. Pourquoi vous réfléchissez là-dessus? La Bible nous enseigne, la doctrine de Christ nous enseigne, il n'y a pas à réfléchir là-dessus, on fait ce qui est dit, puis c'est tout. C'est tout. Moi, quand mon père, chez nous, quand j'étais gamin, à table, les enfants ne parlaient pas. On ne parlait pas. Le père avait dit, bon, les enfants, vous taisez, vous laissez les adultes parler. On se taisait. On obéissait. Ben c'est la même chose avec notre Père Céleste. S'il dit quelque chose, on obéit, on réfléchit pas. Est-ce qu'on réfléchissait? Est-ce qu'on se disait, mais pourquoi il veut pas qu'on parle? Mais pourquoi? Non? On se pose même pas la question. Papa avait dit, vous parlez pas à table, on parlait pas à table. Point barre. C'est comme ça avec Dieu. Alors quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez le pouvoir, entre autres, de parler la langue des anges. Alors là, je vous donne le verset, vous irez le regarder vous-même dans votre Bible, et si vous n'en avez pas, allez vous en acheter une, il y en a à la FNAC qui coûte, je crois, 2 ou 3 €, c'est des vraies Bibles. Hein. 1 Corinthiens 13, 1, 3. Vous pouvez parler la langue des anges. Quand vous parlez la langue des anges, ou la langue des humains, que vous n'avez pas appris, parce que les apôtres, quand ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils sont mis à parler dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Ça doit vous arriver, ça fait partie de la doctrine de Christ. Eh bien, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 2, que c'est à Dieu que vous parlez quand vous parlez comme ça. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oui, bon, ben voilà, c'est du charabia, on comprend pas ce que vous dites, ça sert à rien. » Si, on parle à Dieu, c'est à Dieu qu'on dit des mystères. Mais ça sert à rien si je viens vers vous puis que je vous parle en langue dans la figure pendant 1 heure, ça sert à rien parce que vous allez rien comprendre. Par contre, il y a un autre don, c'est dans 1 Corinthiens 12, 10, un don qui s'appelle le don d'interprétation des langues. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie que vous pouvez comprendre les langues qui sont parlées par le Saint-Esprit. Donc vous pouvez comprendre la langue des anges. Si vous pouvez parler la langue des anges, si vous avez le don d'interprétation, vous pouvez comprendre la langue des anges. Les anges de Dieu parlent par le pouvoir du Saint-Esprit et ils disent les paroles de Christ. Et c'est la langue des anges que nous appelons l'inspiration. Alors bon, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 6, que nous pouvons parler, prêcher, enseigner de diverses manières. Il dit on peut parler par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Ce que j'apprenais à l'école de théologie aurait fait de moi un homme qui prêche, qui parle, qui enseigne par connaissance et par doctrine. C'est très bien, on peut, c'est pas interdit, l'apôtre Paul dit que c'est bien. Mais si je parle par révélation, c'est que j'écoute ce que les anges disent. Parlant leur langue, connaissant leur langue, je peux comprendre ce qu'ils m'enseignent. Est-ce que vous savez que la loi a été donnée à Moïse par des anges? Vous savez ça? Lisez votre Bible, c'est des anges. Et puis, c'est ma connaissance des Écritures saintes qui me garde afin que je ne sois pas trompé par un ange déchu, parce que tout de suite les gens disent « Ah oui, c'est les anges qui te parlent, alors c'est tu es à la merci d'anges déchus, de démons. » Arrêtez avec votre négativisme. Vous savez, la semaine passée, je suis allé voir avec mon épouse, ma cancérologue, et puis elle m'a dit « Maintenant, on ne parle plus de rémission, vous êtes guéri. » Puis elle a envoyé une lettre aux médecins qui me suivent, aux chirurgiens, à toutes sortes, toute une clinique, à mon médecin traitant, etc. En disant maintenant, monsieur Janton, j'ai la joie de constater que c'est une guérison totale et tout. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est, voilà. Pardon? Oui. Et puis elle me dit, elle me dit, elle l'a aussi écrit dans le compte rendu, que je suis très positif. Alors, à moi, elle m'a dit, vous, c'est pas le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Vous, c'est le verre tout plein tout le temps. Je dis, oui, c'est vrai. Je suis positif. Je suis pas toujours en train de... Il y a des moments, oui. Quand je trébuche, Dieu me relève. Mais de nature, je suis positif. Vous voyez, c'est simple et compliqué en même temps. Nous avons à connaître par le Saint-Esprit ce que la Bible dit. Sinon, on risque de marcher sur un faux chemin. Combien de gens se croient chrétiens et marchent sur un faux chemin? C'est pourquoi je vous dis, faites-vous un festin des paroles de Christ, car les paroles de Jésus-Christ vous diront, vous inspireront tout ce que vous avez à faire. Et les anges sont là pour, sont envoyés par Dieu pour nous servir, pour nous inspirer, pour nous, voilà. C'est quand l'apôtre était coincé dans sa prison, c'est pas Jésus qui est venu ouvrir la porte, hein, c'est qui?
Un ange.
Non, non, on parle plus des démons que des anges. Hein. Si on parle des anges, c'est louche. Ah, tu fais le culte des anges. Non, mais ils existent les anges ou ils n'existent pas. Ils existent, oui, pour faire quoi? Pour nous regarder dans le blanc des yeux puis faire... Ils font quoi, les anges? Quel est leur ministère? Ils ont un ministère. Faut arrêter avec ces histoires de démons. Vous mettez plus d'importance sur les démons que sur les anges. Moi, quand je fais un voyage, même quand je vais que ne serait-ce qu'à Toulouse, hein, Michou, on dit toujours, Seigneur, merci parce que tu nous protèges, tu mets des anges autour de notre voiture. Et puis quand on est de retour, on sort de la voiture, puis on dit merci les anges, parce qu'ils nous ont protégés. Il y a besoin de protection sur la route hein, en ce moment. Ici dans le Lot, ils ont une spécialité, ils roulent au milieu de la route. Même dans les contours où il n'y a pas de visibilité, ils roulent au milieu de la route. Des fois ça vous arrive, vous vous trouvez en face d'une bagnole, vous êtes obligé de piler comme un malade, parce que c'est une mode dans le Lot, c'est comme ça. Voilà, ils sont spéciaux. Dans le Lot, il y a beaucoup de gens, ils sont tous gentils, hein, mais ils sont spéciaux des fois. Vous savez, Jésus a vécu dans un corps comme le nôtre. Il était comme nous, comme notre corps. Et il sait ce qu'on ressent lorsqu'on est seul et lorsqu'on est abandonné. Il sait aussi nous apporter du réconfort. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Ça se trouve dans Jean 14, 1. C'est un ordre. Quand je vous le disais l'autre jour, il y a des commandements de Dieu. Ben ça, c'est un commandement de Jésus. C'est dans la Nouvelle Alliance, c'est une loi, que votre cœur ne se trouble pas. Ça vaut bien, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, hein. Que votre cœur ne se trouble pas, c'est un commandement. Et puis, chapitre 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Voilà. On n'est pas des orphelins abandonnés sur cette terre, comme des pauvres malheureux. « Oh Seigneur, tu vois. » Combien je suis un ver de terre. Mais pas du tout. Jésus est revenu en esprit, il vit en vous, il a dit, le Consolateur, le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, Jean 14, 26. Alors, beaucoup de gens citent ce texte, mais comment voulez-vous que Dieu, que le Saint-Esprit, que le Consolateur qui vit en vous, vous rappelle toutes choses si vous ne savez pas ce qu'il a dit? Comment voulez-vous? C'est absurde, c'est religieux ça, vous voyez, encore un truc religieux, un truc bête. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous rappelle des choses que vous ne savez pas? Vous devez d'abord les apprendre, donc la connaissance n'est pas mauvaise. Mais c'est bizarre, hein, le Saint-Esprit ne me rappelle jamais comment s'appelait la belle-sœur de Moïse. Parce que ce n'est pas important. Si je veux le savoir, je cafouille un peu dans la Bible puis je le trouve. Mais comment voulez-vous qu'il vous rappelle des choses, des paroles qu'il a dites et que vous n'avez pas lues? Donc je vous lance un défi, à vous qui n'avez pas de Bible, achetez-vous une Bible cette semaine. Et écrivez-moi, ça y est, c'est fait, envoyez-moi même une photo de vous avec votre Bible. Faites-le! Faites-le! Ensuite, lisez-la. Il y a un pasteur un jour qui arrive chez une chrétienne. Et puis, le pasteur dit, on va lire la Bible. Si vous, il sort sa Bible de sa mallette et puis elle va chercher sa Bible. Puis elle l'ouvre et elle dit, oh, mes lunettes sont là, ça fait 15 jours que j'ai cherché. Elle avait mis ses lunettes dans sa Bible et puis ça faisait 15 jours qu'elle les cherchait. Ça veut dire que ça faisait 15 jours qu'elle n'avait pas lu. En plus, elle était bête, elle l'avouait. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lisez-la. Et puis ensuite, appliquez-vous à faire ce qu'elle dit. Appliquez-vous à faire ce qu'elle dit. Et vous verrez que Dieu vous conduira sur le chemin jusqu'à votre destinée éternel. Amen. Et puis il s'occupera aussi de tout votre pompe à chaleur, tous les machins bébêtes de la vie courante. Il prendra soin de tout. Il vous aidera en tout. Il vous conduira en tout. Je crois ça. J'expérimente ça. Et puis quand je trébuche, il a dit, je te relèverai. Alors, de quoi avoir peur? Il dit, ne craignez pas. 365 fois c'est écrit dans la Bible, ne craignez pas. Pourquoi vous craignez? Parce que vous manquez de foi. Faut pas craindre, faut pas. Remettez votre sort à l'Éternel et il agira. Ça aussi c'est écrit, je crois. Je crois que c'est le psaume 37 ou 34, je sais plus. Psaume 37, je crois. Je vais vous le lire et puis on va terminer là-dessus. Ah là là. crois que c'est une 37, je ne suis pas sûr. Ah, c'est peut-être 34 alors. Non, c'est pas ça.
Moi, c'est 37,
verset 5. 37, 5. Merci, ma puce. Ouais, ma femme, elle connaît les chiffres. Moi, les chiffres, c'est terrible. C'est pourquoi je ne m'occupe pas de la comptabilité. Parce que c'est terrible. 37, 5, voilà ce qui est écrit. Est-ce que je l'ai? Je ne vois même pas. Voilà. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Voilà. Amen. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, aide-les à comprendre toutes ces choses, à les mettre en pratique pour ta gloire et pour leur bien et pour le bien de toute leur famille. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Vous savez, il y a des gens, là dernièrement j'ai mis sur Révélation Bible, sur Facebook, une vidéo où on me voit prier pour des malades et des malades sont guéris et tout. Et il y a des gens qui me disent « Arnaque, t'es complètement fou, ça n'existe pas. » Alors à quelques-uns, j'ai écrit « Quand vous serez malade, ou quand vos enfants seront malades, surtout ne priez pas Dieu parce qu'il ne vous exaucera pas. Il n'exauce que ceux qui ont la foi. Mais ceux qui insultent Dieu et qui insultent ses serviteurs, Dieu ne s'en occupe pas. Il les laisse. » Oh, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Mais Dieu laisse parce que les gens se foutent de Dieu, ils s'en moquent de Dieu. Bah, Dieu est là, il les laisse. Moi, si quelqu'un m'embête, se fiche de moi, je le laisse. Qu'il se débrouille. Je suis pas. Et puis, je suis créé à l'image de Dieu, c'est bizarre, hein. C'est-à-dire que si c'était dans mon cœur de ne pas courir derrière les gens qui m'embêtent, ben c'est aussi dans le cœur de Dieu de ne pas courir derrière les gens qui se moquent de lui, qui blasphèment, qui... C'est comme ça. Faites attention à ce que vous dites. Dites comme Dieu dit. Faites comme Dieu fait. Et vous allez voir votre vie. Amen. Allez, au revoir. Dieu vous garde. Thank you.